Eh bien, bonjour et bon dimanche. Cette chaleur qui fait... Waouh, c'est merveilleux. Moi, j'aime bien la chaleur. Quand je sais que bientôt, il va y avoir l'hiver. Mais si ça devait être comme ça toute l'année, j'aimerais moins. Franchement. Bien, on va lire Amos 7, 14, 15. Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis un berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux et l'Éternel m'a dit, « va prophétise à mon peuple d'Israël. » Amen. Jésus, je te prie que mon message puisse édifier, fortifier, consoler, reprendre aussi et consoler ceux qui ont été brisés, jugés par des soi-disant prophètes, au nom de Jésus. Amen. Le prophète Amos n'avait pas été formé pour être prophète. Il avait même jamais désiré avoir le privilège à charge d'être un messager de Dieu, et pourtant Dieu l'a utilisé à ce titre de prophète. La prophétie constitue une source d'obligation morale, et de ce fait la prophétie et les prophètes sont souvent détestés, parce que bon, quand on arrive avec un message qui vient de Dieu, très généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et Dieu veut redresser la chose, corriger la chose. Alors évidemment, les gens n'aiment pas ça. Mais on ne peut pas isoler la vraie prophétie de la morale, qui est en fait l'objectif principal de la parole de Dieu. La vraie prophétie, elle est donnée comme un phare pour nous diriger vers le ciel. La vraie prophétie, elle est la parole de Dieu. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration divine. Prophétiser, c'est apporter la parole qui convient pour une situation donnée, au sujet du passé, du présent et de l'avenir. La prédiction de l'avenir peut faire partie du message prophétique, mais pas forcément. Annoncer l'avenir, c'est une part importante des prophéties de l'Ancien Testament et aussi du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament. Mais toutefois, déjà à l'époque, la prophétie était destinée à stimuler surtout l'action présente. Dieu ne dévoile l'avenir que pour nous faire agir dans l'immédiat. Regardez par exemple, il a envoyé son prophète à Ninive, les gens se sont repentis, et puis ce que le prophète Jonas a dit, ben, c'est pas arrivé puisque les gens se sont repentis. Vous comprenez? Jonas, il n'était pas content parce qu'il a dit, oui, je passe pour un faux prophète. Mais non, le but essentiel de la prophétie, c'est d'édifier, c'est d'exhorter, c'est de consoler. Il y a plusieurs passages dans Actes 15, 32, 1 Corinthiens 14, 3, Apocalypse 19, 10, on va prendre 1 Corinthiens 14, 3. Vous allez voir ce qui est dit là. Apocalypse 14, 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les console et les exhorte. Voilà. Il leur dit pas, tu vas mourir au mois de septembre, comme l'autre là-haut. Bon, trois fois, on m'a prophétisé que j'allais mourir. Je suis toujours là. Jésus a prévu que le ministère prophétique serait exercé par des disciples. On trouve ça dans Luc 11, 49. Luc 11, 49, Jésus dit, C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes, des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Et voilà, c'est comme ça. Je lisais aujourd'hui que, enfin bon, c'est une autre histoire. Jésus a prévu donc que les ministères de prophètes continueraient, le don de prophétie continuerait. Dans un premier temps, de l'Église, les prophètes ont été nombreux. Vous lirez ça dans votre Bible. À Antioche, il y avait des prophètes. Acte 11, 27. Acte 13, 1. Vous lirez ça dans votre Bible. À Corinthe, à Thessalonique, à Thessaloniciens 5, 19, 20. Vous lirez ça aussi dans votre Bible. À Césarée, il y avait des prophètes. Acte 21, 10. À Rome, Romains 12, 6. Dans les églises d'Asie mineure, Apocalypse 1, 3, il y avait des prophètes dans l'église primitive. Et il n'est pas surprenant que Dieu veuille susciter de véritables prophètes, de véritables ministères prophétiques, juste avant la venue de Jésus, puisque nous savons que Jésus revient bientôt. Il s'agit d'un don d'amour, un message vital envoyé pour aider le monde à se préparer à l'événement le plus décisif de tous les temps, la venue de Jésus, le retour de Jésus. Autrefois, Dieu avertissait son peuple, et si le peuple se détournait de ce que le prophète disait, eh bien des ténèbres spirituelles s'abattaient sur le peuple, et le don de prophétie leur était retiré. Dieu disait plus rien. Ah bon, vous voulez pas écouter? Ben, je dis plus rien. Alors, on trouve ça dans Jérémie, dans la Lamentation de Jérémie 2, 19. Jérémie dit, il n'y a plus de loi, hein, les gens n'obéissent plus, même ces prophètes n'obtiennent plus de vision de la part de l'Éternel. Voilà. Ah oui. Le silence, c'est une bonne chose quand si quelqu'un se moque de moi, bon ben, je me tais, terminé, fini. Ben Dieu, nous sommes créés à son image. Tu veux pas, Dieu dit, tu veux pas m'écouter, bon ben, je dis plus rien, c'est comme ça. Au cours des siècles qui ont suivi la période apostolique, la période des apôtres, les grandes vérités des Écritures ont été déformées, voire même niées par les grandes religions, par d'importants responsables un peu partout dans la chrétienté. Je vous en ai parlé la dernière fois. Et voilà pourquoi les dons et les ministères de prophètes ont quasiment disparu. Et il y a une flopée de faux prophètes qui se sont levés, qui racontent des bobards. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont éloignés de la parole de Dieu et s'attachent davantage à leur pasteur, à leur sainte dénomination religieuse, à des manifestations, à des expériences dites extraordinaires venant du Saint-Esprit, comme par exemple des plumes d'anges qui tombent du plafond. C'est pas bon. Ou alors des extravagances comme des danses incroyables, comme ça se passe même pas dans les boîtes de nuit, ou et se rouler par terre. Ils croient que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Complètement égaré. Ces dérives, elles ont été dénoncées et annoncées par les prophètes d'autrefois. Et il y a besoin d'une repentance profonde et sincère, sortir de cette folie. Et il faut un retour véritable à la parole de Dieu. Car la façon de faire, cette façon de faire qu'ils ont, illustre la fin des temps qui est caractérisée par l'apostasie et l'esprit de Jézabel. On va lire 1 Timothée 4, 1, 4. 1 Timothée 4, 1, 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. On avait parmi nous quelqu'un qui voulait absolument qu'on arrête de manger du porc, qu'on fasse le Shabbat le samedi, qu'on mange cachère, qu'on est... Je dis non, c'est pas selon les Écritures, mon frère. J'en parlais une fois, deux fois, trois fois, puis après j'ai dit, bon ben, va vivre ta foi chez ailleurs. Voilà. Mais chez nous, c'est pas toi qui fais la loi. Éloigne-toi de cette sorte de personne. Dans 1 Timothée 4, 3, 6, maintenant il y a un autre texte, 1 Timothée 4, 3, 6, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors le peuple chrétien, ne voulant plus écouter la parole de Dieu, ben, il se donne une foule d'enseignants qui leur racontent des bobards, hein, on vient de le lire, des fables, il dit. J'en ai vu ces enseignants qui jouent aux prophètes, et je les juge. Vous allez me dire, mais Michel, on n'a pas le droit de juger. Ah bon? Vous connaissez pas votre Bible. 1 Corinthiens 14, 29. Voilà ce qui est dit. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Moi, je juge. Je prends pas tout pour bon pain, hein. Je juge. J'ai le droit de juger. Ah, ça les choque, hein, parce qu'ils n'aiment pas qu'on les juge, on n'aime pas qu'on leur dise non, mais là, c'est pas... J'ai des dossiers dans mon bureau, plein de prophéties stupides qui se sont jamais accomplies. Vous savez, depuis 1968 que je suis converti, j'en ai entendu, j'en ai vu, j'en ai reçu par lettre... Il y en a même un qui m'a écrit sur du papier de toilette, une prophétie. Charmant, n'est-ce pas? Je savais qu'elle ne s'accomplirait pas, parce que, par le Saint-Esprit qui est en moi, je juge ce qui est dit. Et j'en ai le droit, comme je vous ai montré dans la Bible. Vous avez le droit aussi de juger. Ne vous laissez pas faire par ces manipulateurs. Ils viennent vous dire des choses qui semblent justes, juste pour vous appâter, et puis paf, leur venin sort tout d'un coup. Sur le net, je vois des faux prophètes qui disent « Ainsi dit le Seigneur, toi qui lis ça, demain une personne va te téléphoner, va te contacter pour te donner de l'argent afin de construire ta maison. » Moi, je juge que c'est faux. Alors, j'écris. Alors, tout le monde dit. Alors là, c'est effrayant. La naïveté des gens. Amen, amen, je reçois. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Et moi, j'écris. Que celui qui reçoit m'écrive afin que je sache. Jamais personne m'a écrit. J'ai reçu ce qui avait été promis. Jamais personne ne m'a écrit. Parce qu'ils ne reçoivent rien. Puis alors ils mettent des photos de camions avec des tonnes et des tonnes de dollars et tout. Vous savez comment j'appelle? Enfin non, je ne veux pas le dire. Amen, Jérusalem. C'est effrayant. Alors, ils ne reçoivent pas, mais ils continuent à croire ces imbécilités, parce que, une semaine après, de nouveau, ces faux prophètes écrivent de mêmes âneries, et puis. Hein? Des fables. Et encore une fable. Une fable, je t'ai regardé ce que ça signifie, une fable. Une fable, c'est un récit de fiction exprimant une vérité générale. Je crois qu'il faudrait enlever le mot fable dans la Bible et marquer un autre mot. Boniment, par exemple, ça serait mieux. C'est ce que c'est qu'un boniment, c'est un propos mensonger pour attirer la clientèle. M'avez compris? Un bonimenteur, il vous raconte des histoires pour ensuite vous prendre votre pognon. Leurs églises sont devenues des affaires commerciales, les pasteurs roulent dans des voitures de luxe, ils ont des maisons de luxe, et leurs fidèles, ils engraissent ces gens-là, et puis voilà. C'est effrayant. Soyez sages, la Bible dit, sortez de ces clubs, sortez du milieu d'eux, afin de ne pas avoir à participer au châtiment que je vais leur envoyer. Ils sont faussement appelés églises. Ce ne sont pas des églises. L'église, c'est pas ça. Bon. Il y a quand même des vrais prophètes. Mais qui les écoute? Très peu de gens écoutent les vrais prophètes. Les vrais prophètes, ce sont ceux qui sont revêtus par l'esprit d'Élie et qui ne cherchent pas à plaire aux gens, mais à Dieu. Les vrais prophètes, les vrais disciples de Jésus qui fonctionnent avec la vision prophétique avertissent le monde des dangers qu'il encourt en vivant dans la débauche, dans la dépravation. L'environnement, c'est pas très populaire, on n'aime pas trop ça, donc. L'esprit prophétie est un des aspects de la promesse du rétablissement de toutes choses. Vous savez, dans Actes chapitre 3, verset 20-21, il est dit que Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et puis dans 1 Corinthiens aussi, 1, 4, 9, qu'on cite pas assez souvent, 1 Corinthiens 1, 4, 9, il est dit... Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors n'écoutez pas les bonimenteurs, n'écoutez pas ceux qui flattent votre ego. N'écoutez pas. Écoutez la parole de Dieu. Si votre cœur est rempli des saintes écritures, de la Bible, vous saurez reconnaître les vrais prophètes des faux prophètes. Car un vrai prophète prophétise selon l'analogie des écritures. On trouve ça dans Romains chapitre 12. Est-ce que je l'ai noté? Romains chapitre 12. Verset 6. 12, 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire analogie. Alors pour ceux qui savent, excusez-moi de vous le dire, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est mieux que je le dise. Que signifie prophétiser selon l'analogie de la foi? Une analogie, c'est un processus de pensée par lequel on remarque une similitude de forme entre deux choses. Celui qui prophétise, ça doit être en similitude, ça doit être comme ce que la parole de Dieu, ça ne doit pas contredire la parole de Dieu. Le mot analogie pourrait être traduit par caractère commun, que celui qui prophétise, prophétise avec le caractère commun des Écritures, ou avec, en conformité avec les Écritures, ou en équivalence avec les Écritures, ou en connexité, mais voilà encore un mot compliqué, j'irai chercher sur Google, en cohérence avec les Écritures, en concordance avec les Écritures, en relation avec les Écritures. Si c'est pas en relation avec les Écritures, vous pouvez mettre ça à la poubelle. Ne pas être grossier, mais vous pouvez même mettre ça aux toilettes et tirer la chasse. Moi, je garde dans mon bureau. Je garde dans mon bureau parce que je me dis, des moments, mais est-ce que, attends, c'est-il pas possible que ces gens aient dit ça? Alors, de temps en temps, je vais relire, ça me fait rire. Je dis, mais c'est pas possible. Mais quel crétin d'eau douce. C'est pas croyable. Un vrai prophète ne peut pas dire une chose qui n'est pas en accord avec les Saintes Écritures. Un vrai prophète, s'il annonce une chose à venir, elle doit arriver. Sinon, ben, y a des textes qui sont très. Deutéronome, par exemple, 18-22, nous dit. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. J'ai pas peur de rire. Rien de ce qu'il dit n'arrive, mais rien. Mais c'est désespérant, j'ai dit. C'est effarant. Et puis combien d'autres? Combien d'autres? Dans Jérémie 23, voyons, où est-ce que c'est ça? Jérémie 23, je ne sais même pas si je l'ai. Si il est là. Jérémie 23, 31, 32. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur vous demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel, et le prophète et le sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtirai, lui et sa maison. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé dire ça. Lui et sa maison, c'est-à-dire que celui qui prophétise faux, c'est pas seulement lui qui met en danger, mais c'est sa famille aussi. Et pour réfléchir un petit peu, voilà pourquoi j'insiste tant sur le fait que vous devez nourrir votre être entier avec la Bible. Car c'est en la lisant que vous serez à même de reconnaître les vrais prophètes et les faux prophètes. Soyez prudents. Jésus nous dit, soyez prudents. Il faut être prudent. Parce qu'en général, les bonimenteurs, vous avez déjà vu les gens sur les marchés, ceux qui cassent la vaisselle. Vous avez déjà vu ça? Oh, ils sont extraordinaires. Ils ont de la belle vaisselle et ils la cassent. Et ils disent, s'il n'y a personne qui m'en achète, je casse tout. Puis ils cassent. Et je dis, arrête, je vais t'en prendre. Des bonimenteurs, ils prennent les gens par des sentiments, par des émotions, par des faits brusques. Des bonimenteurs. Dans le mot bonimenteur, il y a le mot menteur. Il y a le mot bon, mais il y a le mot menteur. Ils cherchent à tromper les gens pour leur bénéfice. Soyez sages, soyez prudents, faites attention, il y en a de plus en plus, de plus en plus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre, et n'ayez pas peur de juger quand vous entendez une prophétie, jugez pour savoir si c'est vrai. Amen. Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au revoir.